peut-être ta dernière lecture.
Heureux d'être réunis pour rendre hommage à trois de nos poètes, trois poètes qui nous ont quittés, Gilbert Proyer, Charles Michel et Claude. Nous recevons en réconfortant de savoir que malgré leur absence, les poètes ne nous ont pas vraiment quittés. Nous voulons pour preuve que leur poésie. Et ce soir, c'est pour nous un réel réconfort d'être à l'écoute de leur voix, car la poésie, elle, ne meurt pas. Monsieur Le Sieur, je crois savoir que vous avez la tâche de nous parler pour... Pas la tâche, la joie de nous parler de Gilbert Troyer.
Nous rendons hommage ce soir à un homme auquel s'appliquait en tout point le titre de poète. Par la continuité de son inspiration, 30 recueils de vers en témoignent. Par son engagement littéraire, conçu comme une manière d'être au monde, Gilbert Troyer fut en effet essentiellement poète. C'est dans l'entre-deux-guerres qu'il publia son premier recueil Cadran. Puis il partit pour Paris où il fréquenta des écrivains tels que Max Jacob, René Daumal, Jean Follin et d'autres. Il y publia un itinéraire de la mort très proche de l'écriture automatique. Mais tout poète a ses racines. Et comme il l'écrivit un jour, je m'en revins à Genève, où ne m'incommodait nul dépaysement à rebours. J'y signai au cours des années les recueils que me dictaient les circonstances et les voies intérieures. Une quête poursuivie à travers toute une vie et dont je ne puis marquer ici que les temps forts. Avant 1939, citons Paysages confidentiels, où l'on découvre un auteur en pleine possession de son métier et qui, oscillant entre l'immédiat et l'intemporel, usait pour signifier une harmonie consentie entre eux d'une facture classique. Troyer a voulu servir pleinement la poésie en la considérant comme un engagement total, un engagement qui déterminait certaines attitudes, certains choix. Ainsi, par exemple, cette ode à la France de 1940 que lui inspirait la guerre et les malheurs de la France. Ainsi également les recueils que traverse la menace atomique. Dans l'inespéré, l'amour et la mort sont les points extrêmes de la démarche spirituelle du poète qui chante son propre destin. Mais, davantage encore, le destin commun, en nous appelant à croire plus fidèlement en l'avenir. Puis, 6 ans plus tard, paraît le recueil que je considère pour ma part comme un des meilleurs, comme un des plus achevés de Troyer, La Colline, cette œuvre où il s'est exprimé sans rien sacrifier du lyrisme traditionnel, dans le champ le plus haut et le plus convaincant. Soucieuse de l'actualité, soucieux toujours de cette actualité, du monde qui va, du monde qui court, du temps qui passe, Troyer rejetait la tour d'ivoire et toute sa fausse sécurité. Une méditation donc éclaire tour à tour les éléments de la création, les divers visages de l'être. La colline, par une magique transmutation, prend la voie même de l'éternité devant ce qui avance constamment et passe. Un thème toujours semblable s'élève, celui du temps, marche inlassable et indifférente. Dans l'inespéré déjà, comme dans l'Encolie et d'autres ouvrages, Troyer en appelait à la durée. Ce mot durée est important pour lui qui revient souvent dans son œuvre, car c'est par elle qu'il s'affirme, et le goût qu'il en a lui fait rejeter l'accessoire, le transitoire, l'anecdotique, pour chercher à traduire le son d'une âme aux prises avec les interrogations de la philosophie et de l'histoire. Quel Dieu pourra nous réapprendre à vivre? Nous sommes, comme le dit Heidegger, entre l'ère des dieux et celle de l'accomplissement de l'être. Enfin, redescendant le long de la colline, le poète voit naître un monde où l'homme peut reprendre sa course quotidienne et l'alouette jaillir du sillon et qui semble dessiner un geste lucide d'espoir et de beauté. Pourtant, l'horizon s'assombrissait. Guerre, hommes martyrisés, errance des réfugiés, tous ces événements ont retenti sur sa poésie. Car il était sensible à tous les événements, il y participait par tout son cœur et par toute sa poésie. Il apparut bientôt à Troyer qu'il ne lui était plus possible de s'exprimer dans le même langage, que la parole devait devenir plus humble et le poète moins égocentrique. En rupture avec l'ampleur du mouvement lyrique qui l'avait précédé, il trace des vers courts, rapides, d'une condensation impitoyable. Ce sont les poèmes de Prends garde au jour, les poèmes de Laconique et les versets qui suivirent. Extrême resserrement verbal pour se poser au poids toujours plus lourd des mots dans le monde d'aujourd'hui. Ironie amère, maîtrise verbale cachant toute une philosophie personnelle, profonde, intense, c'est sous cette forme et dans cette direction aussi que se présentent les poèmes du recueil posthume publié récemment et qui a pour titre « Blanc sur noir ». Madame Lia Singalovski, avec le grand talent qu'on lui connaît, va faire entendre cette voix dernière de Gilbert Troyer.
C'est madame qui commence. Monique Patrick, c'est moi qui commence. Ensuite, Lia. Ton talent n'est pas moins grand. Rien n'arrive. Rien n'arrive. Fermez la porte. Dévider tout l'horizon, mince vie, étoile morte, matin comme une prison, rouer de larmes le silence, mais dites qui parle bas plus que l'automne, l'absence. Et la neige à petits pas. Rien n'arrive. Tout est ronce pour un grésil éclatant. Patience. La réponse est assise au bout du temps.
Il faudra bien qu'on s'habitue à la venelle du soir. La main de l'homme vous tue, mais la rose et l'espoir
L'espoir est si grand, ma chère, qu'on ne le désarme point. Comme il nous désespère, il est là, serrant le poing. Dans la chambre de mémoire, à travers l'âge j'allais, la fortune blanche ou noire, adossée à mon volet. Le poing serré, je l'accuse de ne ceindre nul trésor. La main passe, l'heure s'use, plus ténébreuse que l'or. L'héros de la vigilance, laquelle ne chôme pas, sur la lune, quel silence, et la terre en contrebas. Il ne s'attarde plus, il rôde sous les épaves du soleil, il quête une source, il s'abreuve à la source d'une pensée. Il presse en lui combien de morts, quel visage qui veut renaître. Sa voix interroge la mort et la délivrance de l'être. Il chemine, mais c'est attendre. Il interroge, mais il va. Le fleuve pourrait le comprendre et l'eau funèbre, seul éclat.
Pénélope, que faut-il? Un carré d'air qui tremble, un seul épi, des ruches pour virer dans l'air, un seul témoin, le jour, un seul gîte, mes yeux éternisant la vie à force de sourire. Il faut tisser l'âme du temps, ô ma pensée, attentive à n'être point lasse. Il faut que nul ne passe encore. Une ombre annulerait l'heure exaltée, ainsi que le remous dont m'ensorcelle la mer lointaine. Attendre et le crier pour moi seul. Je suis la jubilation des abeilles nombreuses, l'essaim qui boue, l'envol qui tarde, la solitude sourde qu'on lamente. Que nous faut-il? À qui le dire? Et qui va proférer les mots qu'une allégresse insoutenable répandra du fronton des astres dans la mer? Vienne la nuit, noué à la constance par un songe filé de mémoire. Et demain, nous hurlerons le même jour d'un nœud plus fort. Le jour antérieur. La nuit s'écroulait toute. Un soleil gris interrogeait le jour si pâle. Mémorable était le jour qui vint, surgit sans rien qui l'achemine. Qui donc pouvait savoir quelle force nouait ce matin vierge au labyrinthe des pensées? L'air tanguait de vertige et la fenêtre ainsi qu'une bouche assommée engouffrait la durée. Un soleil gris de joie étrange était sur nous, d'ombre nulle, d'air intraitable. Nul vent pour saluer les arbres, dire au loin, c'est le matin du monde, il faut un dieu d'azur vide, mais d'or. Nulle voix qu'au silence on aurait adossé, éprouvant que les mots sont les ailes d'un cri qu'on jette. Ce jour était le jour peut-être, vieux complice des âges oubliés, père du sang profond. S'il eût fallu le retenir, juste clouer ma main sur l'eau du songe et bu mon apparence.
Coin de prise. Sur une herbe de haute sorte, le scarabée est là, prenant le frais comme devant sa porte, le curieux du tout venant. Vont et viennent dans la prairie, grande comme un carré de chou, les minables, sans bergerie, les blattes, les chics, les poux. Les fleurs s'amusent à distraire les nuages du ciel pharaon. C'est pure folie, on l'espère, les nuages voguant si haut. Amis du poète Gilbert Troyer, qui aurait souhaité nous parler de Gilbert Troyer, c'est Pascal Rugat.
Oui, c'était un très vieil ami. Nous sommes venus dans les années 20. Nous avions même fondé une petite commune. Celle que nous avions fondée, il n'y a eu que deux numéros. Je ne m'en souviens même plus du titre. Et une amitié très profonde s'était établie entre nous, comme avec d'autres amis. On se rencontrait à la revue Présence. Il y avait Albert Béguin, il y avait le peintre Chambon et tant d'autres. Il y avait Ernest Ditchy ici présent. Et avec Gilbert, c'est très curieux. Nous avions une vision tout à fait différente de la poésie. Et pourtant, il semblait qu'il y avait une telle largeur d'esprit chez cet homme que ça n'avait aucune importance. J'aimais beaucoup lorsque Gilbert avait le brouillon d'un poème. Il me le montrait et je lui disais « Laisse-toi comme ça !» Parce que j'aime la poésie libre. Maintenant, j'ai un peu changé, je dois vous dire, mais enfin, en ce temps-là, c'était comme ça. Ne le touche plus! Ah non, il n'en était pas question. Si bien que les grosses discussions entre nous tournaient toujours autour, bien sûr, du vers libre et du vers classique, enfin bref. Et puis, peu à peu, disons que les années passant, les revues... qui venait un jour et qui disparaissait. On sentait qu'il y avait chez Gilbert vraiment une sorte de, je dirais pas d'agressivité envers le monde qui l'entourait, non. Mais comme me disait Patop, qui était aussi un poète que nous avons bien connu, qui était parmi nous, Patop qui me disait, mais Gilbert souffre des hommes. Et c'est vrai qu'il souffrait des hommes. Il souffrait de se sentir en somme, je dirais pas mal connu si vous voulez, il avait quand même eu le prix Apollinaire, il avait dirigé cette revue, il avait des relations très importantes, mais on avait l'impression qu'il souffrait en somme d'un manque de fraternité, disons le mot, tout simplement. Et il avait aussi... il souffrait de voir, par exemple, qu'il y avait parmi les poètes beaucoup de rivalités. Ne supportait pas ces rivalités. Pour ça que dernièrement, dans l'autre groupement, j'ai dit, et je le redis encore, ce qui nous manque à nous autres, écrivains, c'est un manque de solidarité. Et on doit faire tout notre possible pour que nous aidions les uns les autres. Je crois que si Gilbert nous entendait, il serait vraiment content. Et je ne voudrais pas m'attarder trop, parce qu'il y aurait trop à dire, et c'est toute une vie qui a passé. C'est une amitié de 40-50 ans. Mais je ne pense pas que je voudrais pas que Nicole souffre. J'aimerais lire la dernière lettre qu'il a écrite Peut-être était-ce la dernière, puisqu'elle était datée du 10 avril.
Oui, il est tombé le 25 avril.
Donc quelques jours après. Alors cette lettre vraiment montre ce que Gilbert était peu de jours avant que lui arrive ce malheur. C'était du 9 avril 1980, envoyé de Saint-Mico, Saint-Jean-Joux le National. Il m'appelait toujours Dollfus, très amusant. Autant jadis, on m'appelait Doll. Et lui avait appelé ça au temps où on parlait beaucoup de Dollfus. Ça l'amusait beaucoup, et il m'a toujours appelé Dollfus. Alors cette lettre commence, mon cher Dollfus. Une lettre de toi du 19 juillet, mise à portée de la main droite, et laissez là au fil du temps des horloges. Mais cela veut dire aussi, sans doute, que nous ne vivons pas tout à fait dans ce temps-là, mais dans une toute autre évidence, qui est celle notamment d'Aux sources de l'invisible, qui était mon dernier livre. Et c'est te dire que je ne perds nullement le contact moral et spirituel avec toi. Il y a eu beaucoup de choses depuis l'été dernier. Une installation difficile, un feu de cheminée qui risque de tourner à l'incendie, les travaux de réfection qui s'en suivirent, une virée ou deux à Paris, grippes et bronchites consécutives, parfois une échappée à Genève et la dernière dans la neige jurassienne. Mais ces jours très brefs, dans la mère patrie qui est décidément devenue trop chère pour ma bourse. Problème assez constant. Littérature, poésie, oui. En principe, un livre à paraître, mais non point à Paris, où la crise de l'édition et surtout du livre sévit de plus belle, mais à Vienne, aux éditions du Panorama. Du moins, est-ce mon projet, donc. Ce livre qui est sorti dernièrement, qui s'appelle Blanc sur Noir, qui sont ses livres, qui sont ses poèmes inédits. Pour ne point parler d'une reprise éventuelle de présence à la faveur d'un concours bancaire bernois qui s'offrirait dans l'été, touchons du bois. Oui, la mort de Salive m'a beaucoup peiné. Mais que de disparitions autour de nous, après Mouchet, celle de Harold, Fernand Lucien Muller il y a une année et combien d'autres. Oui, tu me parles également d'Edouard Muller mort qui fut un intime des années 30 quand j'habitais chemin Sauterre et lui, avenue Jules Cronier. En avant, par-dessus les tombes, s'écriait Goethe. Ton expérience ontologique, mais que sont les mots ici, mais très sensibles. C'est la fonction transcendantale de laquelle nous ne saurions à la longue nous distraire. Et c'est trop dire ou trop peu, car elle s'empare de nous à des instants privilégiés. Je serai à Genève pour une dizaine de jours, à tout le mois prochain. Et je te téléphonerai alors pour l'agape nécessaire. Excuse cette lettre décousue, fatigue sans doute, mais l'amitié tenace. J'espère que ta santé est bonne, Gilbert.